culturellement, on a très peur de la transparence sur les salaires parce que c'est tabou et qu'en fait, chez nous, c'est un non-sujet. En revanche, il y a beaucoup de choses qui ont évolué avec le temps. Au début, on y a été par pur esprit de se dire tout est transparent parce qu'on veut que les gens aient le levier. On a une phrase que je répète beaucoup et qu'on répète tous beaucoup qui est le pire comportement qu'on tolère, c'est notre culture de fait. Mmh. Et donc, si je commence à autoriser pour des bonnes raisons qu'on le fasse plus, ouais, parce que c'est vraiment sensible, parce que c'est compliqué, mmh, parce que ça peut faire peur, non, j'explique, mais on y va quand même.
Vous connaissez l'adage « après la pluie, le beau temps ». Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail ? Lundi au soleil, ça n'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, cofondateur et associé de Matribu.io, cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait ? Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute !
Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Paul Sofplan, Chief Corporate et People Officer chez Alan. Alors Paul, pour la petite histoire, t'es déjà venu. Oui. On fera une petite anecdote juste après, mais d'abord, Paul, comment vas-tu ?
Très bien, merci Tim, je suis ravi d'être là à nouveau.
Bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir, merci de nous voir. Moi, je me réjouis de notre échange. Alors, petite anecdote, j'aime bien en balancer deux, trois, des anecdotes un peu pop-corn, mais je t'avais reçu dans le podcast il y a peut-être un an, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, je crois.
Parce qu'on avait fait, c'est d'ailleurs à cette occasion que j'avais découvert le studio de Morning Lafitte. On avait fait une soirée pour, Samuel Durand avait fait une soirée pour le lancement de son documentaire de l'époque, qui était le deuxième, je crois. Et du coup, il y avait un apéro en bas dans le hall de Morning et j'étais venu te choper avant la soirée de projection au Débeauté pour te demander de te poser deux, trois questions. Tu t'étais prêté à l'exercice, on avait fait ça. J'avais fait ça à la hussarde un peu.
Un petit peu, mais c'est l'exercice de l'histoire de ma vie, ça de me faire attraper au hasard et je suis arrivé chez Alan à peu près dans les mêmes conditions.
Et je crois que t'en avais parlé et par ailleurs, moi, il y a un truc, c'est un signal fort, je trouve, c'est que ce qui était assez chouette, c'était que tu l'avais fait peut-être à contre-cœur, je crois pas, mais tu l'avais fait en tout cas avec le smile et en mode « Ok, je me prête à l'exercice, machin », qui était pas forcément confortable d'ailleurs et tout. Mais j'avais trouvé ça hyper cool.
Ça s'est pas si mal passé que ça, je suis revenu.
Ouais, c'est bon. C'est ça. Il n'y a pas eu de grosse négociation pour que tu viennes. Ça fait plaisir. Alors, pourquoi tu viens aujourd'hui ? Moi, c'était important de parler d'Alan parce qu'en fait, déjà, je suis affilié, j'utilise Alan. J'utilisais Alan chez Cosa Vostra, qui était mon agence de communication avant. J'utilise encore aujourd'hui en tant qu'indépendant et ma femme également. Donc voilà, c'est pas un épisode sponsorisé, promis. Mais parce qu'en fait, je pense que Alan fait quand même un peu partie figure de, pas de modèle, mais qui a des exemples assez intéressants et clivants aussi, je pense, d'un point de vue de la culture. J'ai presque envie de parler de culture presque radicale, mais dans le bon sens du terme. Il y a des partis pris qui sont vraiment saillants, qui sont singuliers. Et je trouvais que c'était important de revenir aujourd'hui sur ces points-là. Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de l'intégralité des piliers, je dirais, culturels d'Alan. Mais en tout cas, on va parler de culture de l'écrit. On va parler d'implication de la culture de l'écrit. Les avantages, un peu les inconvénients. La culture de l'onboarding aussi avec les buddies. Ça, c'est un truc qui m'intéresse particulièrement. Il y a pas mal de sujets. Donc, prépare-toi, ça va être touffu.
Eh ben, très bien, on y va.
Avant de commencer, il y a toujours des questions un peu classiques du podcast. Est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot ?
Plutôt au boulot en ce moment, malheureusement, on est au mois
ouais.
de décembre.
Ouais.
Mais j'ai trois enfants, quand ils seront un peu plus grands, on ira peut-être au soleil.
Ok. Et ton lundi, est-ce que, comme beaucoup de gens, je dirais que allez, 80-90% des invités que je reçois, leur lundi, c'est vachement une journée de calage pour toute la semaine qui est splittée entre la to-do et les meetings, tu vois, team meeting, etc. J'imagine que chez Alan, c'est un peu différent.
Alors moi, j'aime bien le lundi en plus. Alors chez Alan, oui, on a deux spécificités. La première, c'est que nos semaines sont du mercredi au mardi.
Ok.
Donc okay. Le lundi est
déjà,
un jour complètement
ça,
normal.
Un peu perdu, mais ok.
Le lundi est un jour complètement normal. C'est l'avant-dernier jour de ma semaine de boulot.
C'est comme un mercredi ou un jeudi pour n'importe
exactement,
qui. Okay,
exactement. Exactement. Pour une raison historique toute bête, qui était que les semaines avant, on les faisait du lundi au vendredi, et ce qui fait que les gens mettaient leurs objectifs et finissaient le vendredi soir en n'ayant pas fini comme ils voulaient. Et on voyait les gens travailler jusqu'à 23h, minuit le vendredi. Ouais. On dit, écoutez les gars, débranchez, prenez votre
et partir, prenez votre week-end. En week-end quoi.
Exactement. Okay. Profitez de votre week-end. Et donc, on vous demandera de faire le point sur vos objectifs le mardi soir. Okay. Ça, c'est sur un premier point. Et puis, non, moi, j'ai une journée que j'aime bien parce qu'effectivement, on a passé un bon temps en famille. Et puis là, c'est un recentrage sur soi, là où le week-end était plutôt basé sur les enfants.
Ok. Et t'as la sensation que ça a eu un impact, en tout cas dans l'état d'esprit ou même le mood, je dirais, des collaborateurs, rien que ça.
Ça, oui, complètement. Oui, oui. Ouais. Ça nous a permis de permettre aux gens aussi de, je pense, c'est un des éléments qu'on essaie de maintenir pour séparer autant que possible ce qui relève de la vie pro, ce qui relève de la vie perso, et de prendre ce temps-là. Sinon, okay. La continuité, elle se fait naturellement. Les gens ont les outils pour être connectés en permanence et je vais me retrouver avec des gens qui vont me poster leur message le samedi matin, quoi.
Et est-ce que tu crois, du coup, je digresse toujours un peu, tu verras, mais que du coup, le lundi, c'est plus un jour où potentiellement, il y a des gens qui, quand tu commences une semaine, les gens qui ont parfois un peu la boule au ventre le dimanche ou tout simplement une petite appréhension, c'est le lundi, tu te dis, waouh, c'est une grosse semaine qui commence. Du coup, ils se disent, ok, c'est comme un mercredi ou un mardi, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et du coup, la journée est un peu vigilante, c'est le mercredi ou le jeudi.
Ça, j'en doute malheureusement, parce que je pense qu'il y a toujours le choc thermique de les gens passer le dimanche ou la couette ou à la maison. Et résultat, le lundi, on n'a pas forcément envie d'y retourner. Moi, ce n'est pas trop mon cas, mais je comprends que le choc puisse toujours être un peu...
Ouais. Alors, je fais toujours un petit détour par le parcours de l'invité. Dans ton cas, je le trouve pas mal. Est-ce que tu peux nous raconter... ça fait condescendant de dire je le trouve pas mal, c'est pas ce que je voulais dire, mais moi j'aime bien les parcours un peu atypiques.
Un peu atypique,
on va dire. Okay. Tu vois, qu'en entretien, quand ils disent vous avez un parcours atypique, ça voulait rien dire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'aime bien les parcours un peu cassés. Toi, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots, je dirais, les grands virages de ton parcours?
Oui, oui. Et moi, c'est ça que j'aime aussi. Je pense que c'est casser mon propre parcours. En fait, chercher des plans d'affection et pas forcément là où on m'attend. Moi, j'ai rejoint Alan en 2016, au tout début de l'aventure, j'étais salarié numéro 3 ou 4. Donc, depuis 7 ans, j'ai grandi avec Alan et je te raconterai un petit peu mon propre parcours dans la boîte qui a beaucoup bougé aussi. Mais c'est vrai que je viens d'un univers qui était très, très différent de la tech, puisque moi, je viens de la fonction publique. J'ai commencé ma carrière, j'ai fait 8 années au service de l'État, d'abord à la Banque de France, dans la supervision financière, à un moment qui me plaisait beaucoup parce que on était au sortir de la crise des subprimes, en plein pendant la crise de la dette grecque. Donc, on est là pour les plus anciens qui s'en souviennent.
C'est pas pour le bien commun, mais envie de faire un truc utile quand même, déjà.
Deux choses. Envie de faire un truc utile, évidemment, et de manière beaucoup plus égoïste. C'est des jobs en sortie de très grande école où on a des degrés de responsabilité qu'on n'aurait même pas dans le privé.
Ouais.
Et ma carrière, elle a souvent été drivée par ça, un vrai besoin d'autonomie et de responsabilité, qui a commencé comme ça dans la supervision financière. Ensuite, au bout de 4 ans, je suis parti à l'Inspection Générale des Finances, qui est tout petit organisme qui dépend du Premier ministre, du ministre de l'Économie et des Finances, qui est le cabinet de conseil en stratégie interne, globalement.
Ouais, bien sûr.
Donc, t'as les clés de la République, tu peux discuter avec n'importe qui.
Ouais, ça, c'est passionnant. Sujet
extraordinaire comme expérience, un groupe qui est... en plus, très costaud techniquement, donc vraiment tout ce que j'aimais, des challenges techniques difficiles, beaucoup de rigueur et en même temps une autonomie
phénoménale. C'est une école en soi, en fait.
C'est une excellente école. Et ensuite, Alan, par le biais des rencontres, tu as quelqu'un qui m'a attrapé, tu m'as attrapé dans un cocktail. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Charles dans un restaurant par un ami commun.
Okay.
À un moment où il se posait la question de ce que voulait dire créer une boîte d'assurance en France.
Ouais.
Il se trouve que j'avais mon passé dans la régulation financière, donc j'ai commencé à l'aider avec Charles, notre fondateur.
Lui était sur un sujet qui c'était la genèse du projet, c'était le début.
C'était le tout début. Ouais. On était à l'été 2015 à cette époque-là et on se posait la question de quelle est même la bonne manière d'avoir de l'impact pour apporter toute une expérience produit et tech au service d'une meilleure santé des Français et des Européens, et notamment aider les personnes à reprendre le contrôle dans la prévention, dans leur capacité à naviguer le système que les gens ne comprennent plus et subissent. Ça aurait pu faire une association, ça aurait pu faire une boîte pure tech. Il se trouve qu'on a fait le choix finalement d'aller sur la boîte d'assurance parce que c'est ça qui nous permet d'avoir à la fois un business model viable et puis d'être en lien avec la sécu, d'être en lien avec les patients, d'être en lien avec les médecins. Et ce rôle très central,
lui, nous permet d'être... aussi.
Exactement. Ouais. Et ça, pour le coup, il se trouve que j'étais là, par hasard, l'expert assurance à cet endroit-là. J'ai mis 6 mois à dire non à Jean-Charles en lui disant non, mais jamais je fais ça, c'est trop loin de ma base.
Ouais, il dit, grosso modo, vous réfléchissiez ensemble, on réfléchit ensemble. Forêt, et puis à un moment donné, il disait bah allez, viens, et puis tu disais bah non.
Je lui dis non, pas pour moi, mais en revanche, je peux te présenter telle personne qui est vraiment super, ouais. Mais on est trop loin.
C'était même pas du bluff en plus.
Ah non,
c'était
pas du tout.
Une technique.
Non, je pensais vraiment partir à l'étranger. On était en 2015, là, tu sais, le move vers les startups pour des gens qui en plus avaient une première partie de carrière professionnelle en 2015 n'était pas la même hype qu'il y avait en 2019-2020.
Ouais, complètement.
Et ça me semblait extrêmement risqué, ce qui n'était pas du tout à l'époque, mais bon, c'est comme ça. Et puis finalement, du fil en aiguille, je me suis pris au projet parce que j'ai aimé les gens, parce que j'ai aimé l'ambition qu'il y avait derrière. Et j'ai fait le choix de les rejoindre finalement au premier trimestre 2016.
D'accord. Et alors, mais j'ai une question qui est un peu con, mais que je trouve importante et qui est encore, qui peut se poser encore aujourd'hui sur l'aventure que tu vis au quotidien. Mais entre le premier volet que tu évoquais, qui était un volet public, et le deuxième qui est où tu es rentré donc dans du privé, quelles sont les compétences que tu as dû développer quand tu es arrivé, quand tu as débarqué chez Alan, ou l'adaptation que tu as vécu en termes de compétences?
J'ai un souvenir très précis des deux trucs les plus durs pour moi. Le premier, ça a été, alors je pense que c'est le choc en plus, Bercy et la rigueur que j'avais. Moi, j'ai un parcours de scientifique à la base, donc j'avais besoin des choses très carrées.
Ouais.
Vers l'entrepreneuriat. Pour le coup, on était 6.
Où t'es un peu plus azimuté, ça part un peu dans tous les sens.
Et j'avais, on m'a dit, tiens, voilà 20 casseroles, il y en a 6 qui brûlent, prends les deux premières.
Ouais.
Et débrouille-toi.
Ouais.
Mais ça, j'ai adoré ça. Mais c'était un changement radical.
Donc la notion d'autonomie et prise de risque aussi, fatalement.
Là où, et tu sais, au tout début, je me suis retiré en me disant, tiens, mais pourquoi on ne bossait pas comme ça dans la fonction publique? J'ai pris un peu de recul aussi, c'est-à-dire que je me dis, je suis assez content qu'on ne réfléchisse pas toute la journée en test and learn quand on prépare des projets de loi et qu'on y passe un peu plus du cerveau.
Oui, oui.
Mais en tout cas, on pouvait se le permettre si on est arrivé chez Alan parce qu'on créait le produit encore.
Oui, tu creuses plus. Tu lances moins un peu comme ça sans filet, mais tu prends un peu plus de recul, un peu plus de pincettes, tu es plus vigilant, quoi.
Et puis peut-être parfois un peu trop, parce que tout le monde veut mettre son grain. Mais exactement. Donc là, j'ai pu libérer un peu plus d'instinct et de capacité à décider rapidement et puis à gérer pas mal de priorités. Et une deuxième chose, là, tu parlais d'anecdotes, j'aime beaucoup les anecdotes aussi. Ça a été ma première rencontre avec l'argent. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma carrière, je suis rentré à l'école polytechnique, je ne suis pas posé de questions, je suis sorti dans la fonction publique, pas de questions. Je n'avais jamais négocié quoi que ce soit, un salaire.
Oui, c'est une espèce d'autoroute, enfin en tout cas un automatisme très guidé, quoi.
Et j'arrive chez Alan et on me dit, bon bah très bien, tu vas t'occuper de deux choses. Un, nous obtenir la licence pour qu'on devienne le premier assureur indépendant agréé depuis une trentaine d'années en France.
Grosse démarche admin.
Exactement, mais ça je sais faire, tu vas compiler de la complexité. Pour le coup, sans aucune modestie, je me dis, personne ne l'a fait depuis longtemps, mais si moi je ne sais pas le faire, pas grand monde saura le faire. Parce que j'avais tout ce qui cochait. Et puis, tu vas aussi négocier le partenariat avec notre premier partenaire sur ce qu'on appelle la réassurance et puis la distribution de certains types de contrats. Et là, je me retrouve dans une situation très, très nouvelle pour moi. Ouais. Comment je négocie? Comment je gère des gens qui sont des fournisseurs? Quelle est la relation? Comment est-ce que l'argent vient aussi biaiser certaines relations? Moi, quand j'étais inspection générale des finances, je pouvais appeler n'importe qui écrire, les gens répondaient.
Oui, c'est ça.
Quand j'étais à la CPR, on était dans une position de chaîne régulateur financier, une position de policier, on va dire. Donc, les boîtes répondaient. Là, c'est plus le cas. Et ça a été un apprentissage assez intéressant. Et je viens d'avoir passé quasiment 4-5 mois avec notre CEO pour qu'il m'apprenne justement à négocier, à ajuster ma posture, mes attentes et à avoir une culture plus du compromis que je n'avais, justement.
Ça, si c'est quelque chose que tu devais refaire aujourd'hui avec le recul que tu as là actuellement, tu te dirais, est-ce que tu referais un binôme avec ton CEO pour que justement tu revives cette même formation, ou est-ce que tu irais choper de l'aide à l'extérieur, etc., de manière à encore aller plus vite peut-être sur cette première étape?
Et alors, moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Alan, c'est que notre CEO avait déjà eu une première boîte avant. Et donc, c'était casser les dents sur pas mal de choses.
Donc, il avait vraiment de l'expérience sur ces sujets.
Exactement. Et donc, pour le coup, réaspirer ce savoir-là est hyper précieux. Maintenant, ce que j'ai mis du temps à faire et que je vais beaucoup faire maintenant en tant que DRH, c'est aller à l'extérieur, absorber les erreurs des autres.
OK.
Et essayer d'accrocher en disant, si t'étais à ma place, comment tu le ferais? C'est quoi les deux plus grosses erreurs que t'as faites et que tu sens que sur ma trajectoire, je pourrais faire et comment je les évite? Ça, c'est hyper, hyper précieux. Et puis après, je lire, écouter plus de podcasts, c'est des choses que j'avais pas du tout l'habitude de faire.
Ouais.
Peut-être par habitude.
Monter en compétences soft skills, on va dire.
Exactement. Et je pense que c'est un vrai muscle à construire et que j'ai pas complètement construit. Je vois par rapport, j'ai des gens dans mon équipe, notre talent lead fait ça hyper naturellement et je vois qu'il absorbe énormément par l'extérieur. Mais c'est aussi Moi, j'absorbe peut-être beaucoup plus par la rencontre que par la lecture. Chacun aussi sa façon d'apprendre, quoi.
Je trouve que c'est, bah, je pense que les deux vont, enfin, l'un va pas sans l'autre, je trouve, perso. Voilà, je trouve que c'est pas exactement les mêmes enseignements. Et après, je trouve que la complexité sur effectivement tout ce qui est formation, on va dire soft skills, ou tout ce qui passe par les podcasts, les bouquins, etc. C'est, tu vas pas sur le site de la FNAC, quoi, c'est ça. Donc, il faut vraiment avoir des choses qui sont balisées, qui ont été lues par certains, et puis qui sont capables de te recommander des choses qui sont faites pour toi. C'est ça que je veux dire. Parce que, tu vois, si tu lis Reinventing Organization, tu vois, de la loupe, bah, en fait, OK, tu vois, mais si tu fais pas DRH ou si t'es pas manager, ça n'a pas vraiment d'intérêt, tu vois. Donc, il y a aussi cette notion de... Je trouve que ce qui est complexe quand t'as envie de grandir un peu au niveau compétences, en tout cas non certifiantes, entre guillemets, c'est effectivement de trouver les bons supports, tu vois, qui vont en tout cas te plaire et te faire cranter, quoi. J'avais une question, mais alors une question en bois, mais je vais pas la poser. Enfin, j'en parle, mais je vais pas te laisser répondre. C'était, est-ce que tu nous expliques en quelques mots en quoi consiste la culture d'entreprise d'Alan? Alors, si tu veux, là, en fait, la question est tellement large que t'es dans la merde. Donc,
je te la prends quand même.
Ok.
Parce que la manière dont je l'explique moi au nouveau, c'est très différent de la manière dont tu l'expliques. C'est une culture qu'on a voulu depuis le tout début être une culture d'adulte. Et je pense que c'est bizarre comme mot, mais je le prends volontairement à nouveau pour cliver radicalement, comme tu disais tout seul. Quand j'ai rejoint Alan, j'avais 29 ans, j'étais le plus jeune de la bande. C'était ma troisième expérience professionnelle, donc c'est très différent que beaucoup de boîtes qui ont pu se créer la bande de copains dans un garage, etc.
Ouais, bien sûr.
Et ça a énormément infusé la manière dont on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'on collabore hyper bien, on s'adore. On n'avait pas vocation à faire une bande de copains. Il se trouve qu'on est devenus. On aurait complètement
accepté. Par extension, mais c'était pas l'idée de départ.
Mais on est capable de faire des groupes avec des personnalités très différentes. On doit être capable de tout se dire, même si ça fait mal, même si ça fait peur, parce qu'on est moins intimidé et on se doit une transparence. Et là, tu commences à mettre tout dans le garage, tu as la transparence radicale. On se doit d'être capable de se confronter face aux discussions difficiles ensemble parce qu'on est tous actionnaires de cette boîte et qu'on se respecte tous et on veut avoir une boîte d'adultes.
C'est ça, alors c'est marrant parce que ça, je retrouve. Alors, nous, on n'avait pas mis le mot d'adulte là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant. C'est plutôt le mot de capacité à absorber la critique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas capacité à absorber la critique, c'est plus large que ça. C'est capacité à se dire les choses, à se dire des choses positives quand c'est positif, parce qu'il faut y penser aussi, et à se dire quand on a fait de la merde ou quand il y a un truc qui va pas, de se le dire. Alors après, sans prendre de gants, mais avec un peu de tact quand même, tu vois. Ouais. Et je trouve que, non, mais moi, j'aime bien cette notion de culture d'adulte. Elle peut être mal prise parce que tu peux te dire, c'est pas parce que t'as 22 ans quand tu débarques dans une boîte que t'es pas adulte, quoi. Bien au contraire.
Mais au contraire, justement, en fait. C'est pas parce que t'as 50 ans que tu te comportes comme un adulte. Ouais, dans exactement. Le sens de ce que je dis.
Ouais. Et donc, je sais pas si c'est presque une, ouais, il y a une recherche de maturité professionnelle aussi, un peu, quelque part.
Oui, et puis c'est le pari qu'on se fait entre nous, en fait. Savoir que si je déraille ou quoi que ce soit, je sais que j'ai quelqu'un qui va me rattraper par le collet avec cette force de rappel. C'est très sécurisant, en fait.
Oui, t'as un côté presque garde-fou, mais qui va aussi te questionner et continuer à te guider.
Et où je vais grandir professionnellement et je continue à apprendre 7 ans et demi après et je continuerai pendant 15 ans, je pense.
Merci pour cette première réponse. J'apprécie que tu te sois plié à l'exercice de cette question extrêmement
et
large.
T'es pas si en bois que ça.
Ça me plaît beaucoup. Je crois qu'il y a deux vecteurs qui sont assez importants, en tout cas chez Alan. J'imagine que ça évolue bien évidemment au fil du temps. C'est d'un côté, effectivement, le collectif, l'humain, et de l'autre, la partie méthode de travail. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est très orienté sur cette notion un peu bicéphale?
Oui, bah là, pour le coup, de façon, ce que tu décris, je pense que c'est plutôt vrai de toutes les organisations. De te dire, une organisation humaine, non, mais qui tourne bien, c'est un groupe de personnes qui travaillent bien et une méthode qui lui correspond. Et j'insiste là-dessus, hein. Enfin, tu disais tout à l'heure que la culture est clivante, elle l'est. Je trouve que le mot que tu as utilisé est génial. Il est génial parce qu'elle ne s'auto-proclame pas meilleure culture du monde. C'est une culture qui nous correspond, c'est tout.
Ouais, qui t'appartient. Hein.
Exactement. Et je veux dire, j'ai tellement d'exemples en tête de personnes qui sont allées dans des boîtes super dans la santé. Enfin, je suis convaincu, et je le sais, on a pris des gens de chez Doctolib qui sont beaucoup plus heureux chez Alan, et on a envoyé des gens chez eux qui sont beaucoup plus heureux chez Docto.
Bien sûr.
Et là, je trouve qu'on a réussi quelque chose.
Je trouve que ça c'est un truc important. Moi, je travaille pas mal sur des volets marque employeur avec des clients. Et en fait, il y a un peu un côté... ils me disent, mais vous n'avez pas des trucs un peu sur étagère qui peuvent permettre de développer le truc? Alors, en fait, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. C'est-à-dire que comme c'est très lié à la culture d'entreprise, si tu n'as pas mis les grands jalons ou l'ambition que tu as derrière ta culture et les preuves de ta culture, tu vas te retrouver avec un truc qui est un peu lisse, quoi, finalement, et dont les collaborateurs ne vont pas forcément se retrouver en termes de valeur, entre autres.
Oui, et de, je vais te dire, nous, la manière dont on a mis en place cette culture au tout début, c'était pas que quelles sont nos valeurs. Enfin, on utilise ce mot de valeur, mais pour moi, c'est surtout une boussole. C'est quelle boussole je donne aux personnes, notamment dans les prises de décision chez Alan. Comment on prend une décision chez Alan? À l'aune de quoi vous êtes censé mesurer l'impact de? Qu'est-ce qu'on met en priorité? Est-ce qu'on met les utilisateurs? Est-ce qu'on met le retour financier? Est-ce qu'on met la capacité à décider vite ou est-ce qu'on met la capacité à décider juste? Donc, ce genre de guide sur comment je prends une décision et un guide comportemental aussi. Prévenir les gens en disant voilà ce qu'on va valoriser, voilà ce qu'on va surtout pas tolérer. Et une fois que tu as posé ça, tu as quand même posé 90% de ta culture, je pense.
Merci pour cette précision. Il y a plusieurs sujets que je vais évoquer. Je reviendrai sur le sujet, effectivement, notamment de l'accompagnement. Je trouve que c'est important parce que je crois que c'est quand même assez serré chez vous, en tout cas quand tu es un nouveau collaborateur. Oui. Il y a un truc que vous avez chez vous. Bon, c'est pas un secret d'ailleurs, hein, loin de là, puisque vous êtes une entreprise plutôt transparente, mais c'est la culture de l'écrit, ouais. Au détriment, je dirais, de l'oral. Et en fait, j'avais préparé une question qui était plutôt, pourquoi cette culture-là, etc. Mais au regard de ta réponse d'avant, j'ai envie de me dire, j'ai pas vu ce mot-là, en fait. Dans tout, à chaque fois qu'on m'a parlé, et on avait déjà évoqué ce sujet ensemble, mais à chaque fois que j'ai évoqué autour de moi la culture de l'écrit versus l'oral, j'avais jamais le mot de responsabilisation et d'autonomie dans la décision qui ressortait. En fait, c'était de dire, on traque, parce qu'en fait, on a envie de voir ce qui se passe. Et en fait, si tu creuses un peu, tu me diras si je me gourre, hein, mais si tu creuses un peu, sous-jacent là-dedans, c'est le truc de se dire, si vous voulez être en capacité de prendre des décisions en tant qu'individu ou potentiellement en tant qu'équipe, en tant que collectif, sans que ça remonte en mode pyramidal, cette culture de l'écrit est nécessaire.
Exactement. Je pense que par rapport à la première phrase, entre la première et deuxième, tu as inversé la cause et la conséquence. Et c'est ça que je trouve exactement le point de départ. Si je reviens sur l'historique d'Alan pour vous raconter la dynamique de comment cette culture s'est mise en place, que tu verras que tout s'imbrique. Je parle de cette boîte où on commence à 6, j'ai 29 ans, je suis plus jeune, donc tout le monde a son champ de compétences, tout le monde a énormément de respect pour les autres en disant ils sont au top de chacune de leurs verticales. Ouais. Et en plus de ça, je leur fais complètement confiance sur le fait de prendre les bonnes décisions.
Okay.
Et
ça, c'était le postulat
de départ. C'était le postulat de départ.
Okay,
et c'est le postulat, notamment notre CEO, qui s'était cassé les dents dans une première boîte, qui avait très bien marché techniquement, mais où en fait l'organisation n'avait pas scalé à la même vitesse. Parce que c'était une boîte de copains, justement. Et donc, les gens n'ont pas forcément le rythme, ne peuvent pas forcément scaler le même rythme que la boîte. Sachant, en plus que nous, on crée une boîte d'assurance, donc on savait que, de toute façon, on serait en millions d'utilisateurs si on voulait avoir de l'impact, en fait. Donc, on n'allait pas faire une boîte qui serait méga profitable et on arrêterait à 20 personnes, quoi.
Bien sûr.
Donc, dès lors que tu as cette ambition-là, tu sais que tu vas devoir grandir rapidement avec l'équipe. Donc, le postulat de base, il est là. Et quel type de personnes je veux faire venir? Et les personnes qu'on a voulu faire venir venaient compléter ce profil-là en disant des gens qui sont extrêmement forts dans leur domaine, prêts à avoir les mains dans le cambouis très fort, et donc à qui on est prêt, nous aussi, à donner les leviers pour décider, même si le CEO pense différemment. Ça, il y en a plein. Et on s'est rendu compte que c'était peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas, quand on s'est créé en 2016, c'était une opportunité de dingue parce que les parcours d'experts ou les parcours plus horizontaux sont mal gérés dans les grands groupes. Ouais. Et on a récupéré plein de gens dans des super boîtes tech, qui était frustrant parce que ingénieur incroyable, mais passé manager parce qu'il était incroyable techniquement.
Ouais.
Et aucune envie de faire ça. Et ça, donc, tu l'as dit, reviens, tu vas avoir la complexité et la capacité à décider aussi. Le rêve pour eux, quoi.
Ouais, bien sûr.
Sauf que si tu veux que ça marche, il faut que chaque individu dans la boîte soit capable de prendre la décision comme un CEO, comme un actionnaire. Donc, soit au courant de ce qui se passe au conseil d'administration, quel est l'état de ce qui est difficile, quelles sont nos finances. Et là, tout s'imbrique parce que tu vois qu'il y a besoin d'avoir accès à cette info-là. Et si je veux pouvoir la partager n'importe quand, sans passer ma vie en réunion et en permettant aux gens d'avoir des plages d'organisation très focus, il faut que je l'ai cette documentation. Parce qu'elle me perd, c'est elle qui me permettra de distribuer les décisions, c'est elle qui me permettra de scaler rapidement mon équipe, alors que je sais qu'il faudra que j'en bouge beaucoup de personnes. C'est elle qui me permettra aussi de documenter, comme tu dis, mais là on arrive déjà sur les effets un peu de second ordre, de la même manière que ça nous permet d'avoir une base de savoir qu'on peut réutiliser pour les nouveaux. Mais là, la source, pour moi, elle trouve son origine sur dans quel mode organisationnel je peux laisser à des gens très forts le temps de travail pour creuser leur sujet eux-mêmes et décider eux-mêmes au nom de la boîte.
Mais ça veut dire que ils vont quand même chercher l'info, c'est-à-dire que c'est une question un peu con, mais grosso modo, j'imagine que vous avez des temps où effectivement vous remontez l'information. Je rebondis sur la transparence radicale, mais Et effectivement, je regardais un super article de Notion qu'ils ont fait en collaboration avec vous, en présentant justement le travail qu'ils ont fait avec vous sur effectivement l'orchestration. Et le truc est assez chiadé, hein, je veux dire. Moi, j'ai bien aimé effectivement comment tu vas aller chercher l'info, parce que c'est très structuré. Mais ça veut dire que tu considères aussi dans cette responsabilisation-là que si tu veux prendre une décision éclairée en tant qu'individu, manager, peu importe, collaborateur, tu dois être en mesure d'aller chercher l'information. Tu dois. C'est pas tu dois être en mesure, c'est tu dois aller chercher l'info sur le Notion et parce que tu as tout dessus.
Alors, oui, en théorie, je vais te raconter un peu comment on a fait vivre ça aussi. Tu me dis si je suis trop long.
Ouais, non, vas-y.
D'une part, le point de départ, il n'est pas je vais chercher l'info, il est est-ce qu'on a bien clarifié qu'à chaque sujet, j'ai un responsable qui a l'autorisation et la responsabilité de prendre la décision.
Ok.
Quand j'ai un sujet qui va être de plus en plus complexe en fonction de ma seniorité, mon rôle, c'est de m'assurer qu'autour de la table virtuelle, écrite, j'ai des contributeurs, des gens qui sont les sachants et qui peuvent me donner les infos.
Qui vont apporter la bonne info au bon moment.
Moi, mon rôle, c'est d'expliquer quelle est la stratégie que je vais prendre, quelles sont les questions, quels sont les doutes que j'ai, et donnez-moi l'info. Donc, t'es pas uniquement, genre, je suis face à une masse d'informations qui existent et sur lesquelles je suis allé chercher taper. Et ensuite, par contre, ma prise de décision est documentée parce que je dois pouvoir revenir sur, OK. Et ça, je l'ai vu. Moi, il m'a fallu 6 mois pour me rendre compte que c'était extrêmement puissant. C'est quand tu, non seulement t'as tes journées qui se vident avec des plages de travail en profondeur qui sont bien plus infinies.
Pour moi, c'est un des premiers impacts forts.
Mais en plus de ça, quand les premières fois, on se dit, mais mince, c'est telle décision, c'était pris avec les pieds, comment on s'est débrouillé? Et tu retournes sur le fil de discussion et tout le raisonnement est bon. Il y a juste une hypothèse de base qu'on avait prise, qu'on n'avait pas l'info à l'époque, qui était pas bonne. Et il te suffit de rajouter dedans les nouvelles informations que tu as et tout le raisonnement logique sur des tiens, et t'es beaucoup plus libre de changer de décision aussi. Hyper puissant. Ça, c'est sûr, voilà comment ça marche au quotidien. Après, sur Notion, sur la base de savoir, il est vrai qu'à mesure qu'on a grandi, on commence à produire une information écrite qui est telle que le risque, c'est de noyer les gens.
Ouais, exactement.
Et ça, ça demande une énorme rigueur. Avec un exemple, je crois que l'an dernier, on a créé autant de discussions écrites qu'on en a créé sur toute l'année, les années précédentes de la boîte. Ouais. Par le jeu mécanique de...
Bah, du nombre de collaborateurs, exactement. Du nombre de sujets, etc.
Ça veut dire 2 choses. 1, qu'on est obligé de surtout faire une attention très forte à comment on la classifie. C'est pas parce que l'édition est écrite qu'elle a vocation à être criée avec tambour trompette à toute la boîte.
Ouais, bien sûr.
Et donc, on a différents niveaux de lecture. C'est quand on dit, bah, ça, c'est du technique, c'est entre nous, c'est sur l'équipe qui gère ça, parce qu'on historise comme on a travaillé. Ça, par contre, c'est une décision culturelle forte sur laquelle on va même avoir le CEO qui poste un message.
Et donc, c'est partagé à
les exactement. Outils, les et on est sur un raisonnement plus de nul n'est censé ignorer la loi, pour le coup, sur ces quelques principes-là, mais ils sont flagués comme tels. Et on se met nos fameux mardis soirs dont je te parlais, la semaine commence, ou le mercredi, c'était le cas ce matin, je l'ai fait l'exercice, où on concatène justement toutes les actions importantes de l'équipe sur la semaine d'avant, et on les partage dans l'ensemble de la boîte. Voilà où on va, voilà les chiffres, voilà les trucs importants. Et donc, l'idée est que simplement par cet exercice-là, qui prend à chaque personne 20 minutes le mercredi soir, de se mettre à la page sur tout ce qui se passe dans la boîte, et qui a un intérêt fou pour 2 choses. 1, je suis très au clair sur à l'aune de quoi on décide aujourd'hui, et donc je peux prendre mes décisions moi-même. Et deuxièmement, en termes de curiosité intellectuelle, de savoir qu'il fait partie du collectif, si j'ai un appétit pour la finance, très bien, et je peux regarder ce qui se passe, c'est hyper formateur. Et c'est pour ça qu'on a aussi plein de gens qui, après de passer chez Alan, deviennent entrepreneurs, parce qu'ils ont touché à plus que leur core skill.
Non, et puis tu comprends aussi ce que fait un peu, pas chaque collaborateur, mais voilà, toutes les facettes un peu de la boîte.
Exactement.
Et c'est diablement enrichissant. Alors, moi, j'ai une question qui est un peu piège, hein, bien évidemment. Hein, la notion de scalabilité, pour employer un terme de start-upper. Mais tu vois, j'avais une discussion avec quelqu'un qui testait l'holacratie dans sa boîte et ça commençait vraiment à grandir et qui me disait, voilà, quand t'arrives à 100, ça commençait à être chaud patate parce qu'en fait, il faut considérablement faire évoluer le modèle avec l'ADN qui est le tien. Et donc, faut être constamment en train de repenser le modèle. Donc, c'est assez complexe. Et en fait, je me dis, sur la culture de l'écrit, moi, je vois bien comment ça fonctionne plutôt pas mal à 10, 20. Mais je me dis, t'es 150, alors c'est pas votre cas, hein, vous êtes...
550,
Est-ce que t'as pas... on arrive à déceler des envies un peu de court-circuiter le modèle, tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr, mais c'est là où il faut le tenir fermement. Là, je vais être assez radical dans la réponse. Alors, premièrement, ces doutes-là, je pense qu'on les a tous eus, peut-être pas notre CEO, mais en tout cas, moi, je les avais. On était 10, je pensais que ça casserait à 25. On était 25, je pensais que ça casserait à 50, à 50, à 100. Et en fait, à 550, ça tient très bien. Okay. Je vois pas pourquoi on peut pas aller à 10 000 comme ça. Sous 2 conditions. La première, pour moi, c'est de ne pas dévoyer cette culture-là en se disant, j'en mets 3. Un bon plan normalien en 3 parties. La première condition, c'est pas dévoyer cette culture de l'écrit en disant, on la déshumanise en disant ça veut dire qu'il n'y a aucune interaction morale. C'est absolument pas le cas. C'est pas parce que je documente la prise de décision à l'écrit et que j'ai un forum de réflexion.
Que je m'affranchis des échanges informels.
Le jour où j'en ai besoin. Mmh. Et le jour où j'ai une urgence, c'est mon téléphone, je tape sur l'épaule du voisin. Le jour où j'ai besoin d'une session de créativité et de whiteboard, si tu viens chez nous, tu aurais dû venir, on a des très très beaux locaux ici. Il y a plein de petites salles qui sont des salles pour 2-3. On ne fait pas de réunion à 8. Par contre, des moments de brainstorming à 2-3, mmh. on a plein. La deuxième chose, c'est comment j'articule tout le savoir qui est créé, toute cette production écrite. On vient d'en parler. Il se trouve, là, c'était pas, j'aimerais te dire que c'était prévu, ça l'était pas, mais c'est formidable. Cette production qu'on a depuis 8 ans, aujourd'hui, quand on branche là-dessus des LLM via un outil interne, un outil comme Dust qui a été créé par l'ancien Alan, c'est une puissance phénoménale. Parce que là, pour le coup, en plus, t'as une machine qui est capable de digérer les 8 années d'écrit qu'on a faites okay. et de la restituer en fonction de ta question. C'est en train de nous changer la manière dont on gère le savoir et on voit qu'on a 3 coups d'avance.
C'est-à-dire, tu sais que t'as effectivement cette base de knowledge et tu vas puiser dedans.
Exactement.
Et en plus avec une réunion que t'es, enfin pas une réunion que t'es en train de faire, mais un contenu que de restitution que tu as et tu vas le mouliner avec.
Exactement. Mais donc je vais déjà avoir toutes les réponses sur l'organisation interne d'Alan, sur la manière dont on réfléchit le produit. Tout ce savoir, en fait, on a construit une base qui sinon aurait été perdue parce que les paroles s'envolent, les écrits restent, quoi. Et troisièmement, il y a une question de personne. C'est-à-dire que, pour le coup, on en parlera probablement tout à l'heure, tu parlais d'onboarding, mais même dans le recrutement, il faut qu'on continue à faire venir des gens qui comprennent ce qu'ils vont trouver et qui soient heureux avec ça.
Oui, pas de fausses promesses, et puis, mais aussi être très clair sur comment ça fonctionne, etc.
Exactement.
Ça, c'est un truc hyper clivant. Enfin, pas clivant, mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important de dire à un collaborateur, enfin, un aspirant, un candidat, de dire voilà comment on fonctionne. Est-ce que toi, t'es à l'aise là-dessus, quoi?
Et c'est certain que ce sera difficile au début, mais il faut que t'aies envie de ça. Une des difficultés qu'on peut avoir en recrutement, j'ai eu une émission sur les erreurs, les ratés de recrutement, et un des principaux ratés qu'on a, c'est la difficulté de repérer des candidats qui se mentent un peu à eux-mêmes, parce que c'est tellement radical et tellement...
Et qu'ils se disent, non, mais je peux le faire.
Exact. Et j'aime voir même, j'ai cette espèce d'excitation de l'inconnu de, ah, tiens, j'ai envie de tester.
Ouais.
Mais au fond de vous-même, vous savez si on vous a envie d'y aller ou pas.
Ah bah ouais.
Et ça, je veux dire, je sais que les gens qui viennent chez nous, ils y trouvent ce qu'on a présenté en recrutement. Mmh. Et ça, c'est une vraie fierté chez nous de se dire on a vraiment soulevé le capot. Mais ça convient pas à tout le monde et c'est OK. Mmh. Mais en revanche, on ne mettra jamais d'eau dans notre vin sur la culture au plaisir pour augmenter le pool de personnes qu'on peut recruter. Quoi. Voilà la boîte telle qu'elle est. Elle fonctionne grâce à ça. Et ensuite, c'est à nous de nous dire est-ce que j'ai envie de jouer ce jeu-là ou pas. Et ensuite, de raconter, nous, beaucoup les histoires de pourquoi on le fait.
Et on reviendra sur ce sujet effectivement d'onboarding et de matching presque hein, entre effectivement le candidat et la boîte. Alors c'est pas zéro réunion, hein, c'est ce que tu disais, calmons-nous. Hein, c'était pas ça l'idée. Et notamment pour les sales, je crois qu'il y a pas mal de moments de rencontre formels ou informels. Alors j'ai entendu parler de l'équipe de réunion équipe hebdo, des one-one avec le lead, des dry run, des formations, sessions en direct, des événements.
Fait beaucoup de franglais, ça. Hein.
Ouais, bon, toujours un peu. Hein, alors... et du coup, là, je me dis, il y a ces moments-là qui sont aussi vecteurs, j'imagine, et qui donnent lieu à de l'écrit, tout simplement aussi, et qui font une base de knowledge, j'imagine. Mais il y a quand même des moments un peu cérémonieux, en tout cas, de rencontre.
Alors, deux choses. Sur la prise de décision, on sera vraiment toujours à l'écrit. Il y a le brainstorm à l'oral, oui. Et ensuite, pour le coup, je précise que le franglais vient du fait que notre langue de travail est l'anglais parce qu'on savait qu'on ferait une boîte internationale. Mmh. Donc, c'est de là qu'il n'y a pas de traduction.
Ensuite, il n'y a pas de cliché, c'est important.
Exactement, on essaie. On essaie ensuite, en revanche, de maintenir ces moments euros qui sont des moments, notamment tu évoquais un rituel qui est extrêmement important pour nous, qui est ce qu'on appelle les one-one, effectivement. Donc les réunions qui peuvent être des moments toutes les deux semaines entre une personne et la personne qui est son coach, donc la personne qui va l'accompagner dans sa croissance chez Alan, dans son parcours. Ça sont des moments qui n'ont pas vocation à être documentés, partagés, écrits. C'est un peu les moments de
bulles,
safe
quoi.
Space. Exactement. Mmh. C'est la bulle dans laquelle je vais raconter comment je vais, quelles sont mes difficultés, comment je vais à naviguer. Et ça, c'est les moments qui créent du lien aussi. On a en rituel classique, on fait des all-ins, donc des réunions, on réunit toute la boîte pour un plutôt un question-réponse avec les fondateurs ou sur certaines thématiques.
Okay.
On fait évidemment des moments où on fait revenir toutes les équipes, en général c'est toutes les 6-8 semaines, pour justement pour ressouder le groupe et qu'elles apprennent à faire connaissance. Et après, il y a des choses assez basiques que j'essaie de rappeler à tous les gens qui débutent chez nous, c'est vous allez interagir à l'écrit. En revanche, si la personne avec qui vous interagissez, vous n'êtes pas capable de la reconnaître dans la rue, commencer par déjà déclencher un café, d'aller déjeuner avec elle. Donc,
faut avoir ce réflexe un peu natif.
Exactement. Ouais. Et c'est loin d'être une boîte. C'est une boîte où on est maître de son agenda, où on n'est pas sollicité en permanence par interrompu par l'instantanéité. Mais au l'inverse, les personnes s'adorent, où il y a énormément de liens personnels. Une chose que je disais souvent et qui est toujours vraie, qui était si tu vas venir au bureau, si tu viens chez Alan au bureau, les bureaux sont beaucoup plus silencieux que la moyenne, je pense. Viens à la cantine.
Ça me plaît déjà.
Ouais. Par contre, viens à la cantine. Je pense que t'as beaucoup, beaucoup moins de gens qui parlent de taf que dans n'importe quelle autre boîte. Parce que de toute façon, la décision à pas la prendre à table.
Oui.
Et donc, les gens parlent d'autre chose.
Ouais, c'est ça. C'est très, c'est pas segmenté, mais c'est très scindé. Et du coup, en fait, t'as la culture du papotage à la cool.
Exactement.
Quand tu bouffes ensemble. Moi, il y a une autre question qui me taraude. Tu l'as un peu évoqué. T'as donné une réponse, mais j'aimerais creuser. En fait, c'est la notion de, d'innovation, la notion de création. Souvent, on la met en lien avec des rencontres, des brainstorms un peu touffus, tu vois, etc. Vous, vous limitez effectivement à 2-3. Moi, je suis assez en phase là-dessus parce qu'effectivement, la bonne idée appartient à tout le monde. Et ça ne veut pas dire que dans des rencontres à 10 personnes, il ne peut pas y avoir une super idée qui tombe. Mais comment vous arrivez à maintenir cette culture, je dirais, de l'innovation et du brainstorm, encore un mot anglais, justement, avec cette configuration, tu vois, de l'écrit, entre autres?
Alors, je me posais les mêmes questions que toi et je suis pas la meilleure personne pour y répondre chez Alan parce que ça a toujours été un peu, je vais pas dire un mystère, mais de me dire est-ce que les personnes qui travaillent chez nous en marketing, en design, sont aussi créatives que les gens de l'extérieur? Pour les voir fonctionner, oui, complètement. Et pour voir à mon échelle, moi, je suis dans des métiers plus, j'ai fait la finance chez Alan, les RH, le légal, conformité. On a quand même besoin d'idées, mais l'idée, elle vient de deux choses. Elle vient surtout la rencontre, enfin, de l'échange, mais de perspective, et ça marche tout aussi bien à l'écrit avec quelques personnes, et elle vient beaucoup d'inspiration de l'extérieur. Et là, on revient sur les lectures, les rencontres que j'ai pu faire aussi, ou que n'importe qui fait, en disant, tiens, on va s'inspirer de telle chose. Et là, à l'inverse, je trouve qu'on a une source de créativité qui est très forte chez Alan, grâce à la transparence radicale et au fait qu'il y ait beaucoup moins de silos. La plupart du temps, on va toujours avoir une bonne idée, y compris produite, y compris en termes d'organisation, qui va venir d'une équipe. Et on se dit, mais ça, c'est génial. Comment je le répliquerai chez moi? Comment je le réplique sur le produit? Qu'est-ce que ça implique chez moi en termes de... Et c'est une source formidable aussi d'inspiration. Donc,
T'as un côté un peu wiki, en fait, où tu te dis, tiens, j'ai... En fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, quand t'as une bonne idée, si t'es 3-4, peut-être que quelqu'un dans la boîte peut réagir dessus, mais il n'a pas forcément l'information puisque c'est de l'oral et que c'est finalement assez peu documenté. En fait, je parle vraiment d'expérience perso, là, pour le coup. Et des gens qui nous disent 3 mois plus tard, ah, mais vous aviez eu cette idée, mais
nous aussi, on l'avait eu. Ouais.
Et donc, il y a un peu ce côté-là?
Oui, et puis surtout, moi, je crois pas tant que ça. Une boîte de com me tuerait peut-être, mais à l'artiste qui attrape l'idée de génie en plein air, et voilà.
Ah, bah, ouais, bien sûr.
C'est essentiellement de la rencontre des lectures. Même, tu vois, quelqu'un, je pense que notre CEO a 15 idées à la minute. Et notre job, c'est aussi de filtrer ça. Mais il y a des sources d'inspiration partout. Parce qu'il y a des gens qui sont très créatifs, qui vont être source de ça. Et c'est la rencontre avec le reste de l'équipe qui va traduire, leur ramener un peu de rationalité, se dire, on a quand même l'ambition, on y va, on va tester. Je pense pas qu'on soit une boîte fine moins créative. Je pense qu'en revanche, on est beaucoup plus rationnel dans les prises de décision. Il y a moins d'émotions, ça c'est vrai. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, ça nous correspond.
Ouais, là-dessus, je pense que c'est un débat sans fin, mais c'est qu'en fait, tu l'as dit, ça peut te correspondre.
Exactement.
Et effectivement, la place de l'émotion, bon, je pense qu'elle est importante dans les boîtes, mais voilà, c'est un bon équilibre à trouver. Je reviens sur les marqueurs un peu. Moi, j'aime bien le mot marqueur, même si c'est un mot un peu fort. Chez Alan, quand on est collaborateur, il y a une notion, effectivement, pour les nouvelles arrivants, je crois que t'as accompagné. Alors, ça doit durer, j'imagine, pendant ton parcours de collaborateur, qui est en triptyque. T'as effectivement un role buddy, t'as le culture buddy, t'as le coach. T'es amusé parce que je me suis documenté, c'est ça?
Alors, je suis amusé parce que t'es commenté. Vas-y, va-y.
Ça dit plus ça, ils sont 5.
Exactement. Je vais te raconter aussi ce qui change, justement. C'est ça qui est bien. Le parcours de recrutement chez nous se fait en 4 à 5 étapes, pour le coup, avec vraiment une vocation très forte à soulever le capot. Notamment sur l'onculture.
Soulever le capot, je te pardonne de te couper, côté candidat et à la fois pour la boîte.
Surtout côté boîte. Quand je dis soulever le capot, c'est nous challenger les candidats et en récupérant sur leur base de leur expérience précédente, est-ce qu'ils sont déjà acculturés ou pas. Et puis nous, surtout, dire voilà ce que tu as trouvé, comment tu te sens face à ces limites-là, voilà comment on travaille, voilà nos outils. Mais ensuite, une fois qu'ils ont ça, ils ont lu énormément, ils arrivent dans la pratique, dans la vraie vie. Et il faut qu'on les embarque avec un mix de nous, une volonté de leur dire prends ton temps, voilà la méthode, elle n'est pas évidente, on va t'accompagner. Et puis eux, une seule envie, comme tout le monde, j'ai été embauché au terme d'un processus de sélection hyper dur, j'ai qu'une seule envie, c'est de faire mes preuves et montrer que je délivre. on essaie de trouver cette balance-là. Donc, on a effectivement eu ce message important qui était, tu as une personne dédiée. Donc, il y a dans ton craft, dans ton métier, dans ton cœur de métier, il y a une personne qui est en charge de l'équipe. Est-ce que techniquement, on est bon, on est au niveau dans ce métier-là? C'est ce qu'on appelle ta communauté chez nous. Ça va relever dans l'angle métier. Je vais le laisser un petit peu à part. Ensuite, tu es accompagné par une personne, et ça tout au long d'Alan, qui va changer peut-être tous les deux ans et demi, qui va être ce qu'on appelle ton coach. C'est cet espace un peu sécurisé dont je parlais, qui va t'accompagner dans les hauts, dans les bas, t'aider à te projeter. Ce coach-là, tu l'as dès la partie onboarding, il ou elle joue un rôle hyper fondamental. Tu vas avoir, d'une manière temporaire, quelqu'un qui va t'accompagner sur le rôle, qui va être plutôt, on va dire, un binôme technique. Ça, je pense, comme dans pas mal de boîtes en onboarding, pour t'apprendre à utiliser les outils, voilà comment on trouve l'information, voilà qu'on marche tel projet sur lequel tu vas être affecté. Et c'est poser la question chez nous de dire, la culture est tellement forte, tellement importante, quelle est la bonne méthode pour accompagner les gens dedans? Et donc, on avait mis, jusqu'à il y a 4 mois, c'est pas que j'ai rigolé, c'est très récent. En plus de ça, un troisième buddy, ce qui faisait 4 avec le community, qui était en charge spécifiquement des questions culturelles.
Okay.
Et en fait, on s'est rendu compte que la greffe marchait de moins en moins bien parce que les gens, en fait, le rôle du coach là-dedans, qui était aussi un rôle éminemment culturel, n'était pas suffisamment bien défini. Et donc, on a fait le test de dire, changeons notre fusil d'épaule.
Ils étaient poreux, c'était poreux entre effectivement le culture buddy et le coach.
En fait, comme d'habitude, chez nous, ce qui marche, c'est quand les responsabilités sont bien définies. Et quand la responsabilité, elle est sur plusieurs personnes, elle n'est plus distribuée, elle devient diluée, et donc ça ne marche plus.
Okay.
Et donc, on met une seule personne, c'est le coach qui a repris cette casquette-là. En revanche, on fait beaucoup plus attention à rajouter des sessions dans l'onboarding dédiées à la culture. En fait, on fonctionne de plus en plus par l'exemple. C'était déjà le cas au début, mais on essaie vraiment de le matérialiser davantage. Moi-même, il y en a un batch de nouveau toutes les 2 semaines. Je passe 1h30 avec eux en personne pour leur expliquer l'histoire d'Alan, d'où vient la culture. On déjeune ensuite ensemble, on reparle de culture, on leur donne tous les outils pour que s'ils ont des moins de difficultés d'interprétation, de ne savoir comment naviguer, à qui poser des questions. Ça, ils l'ont. Et ensuite, on parle de culture dans tout. Chaque semaine, cette fameuse lettre du mercredi, elle a une espèce d'executive summary, de résumé, une première page avec un mot de stratégie, un mot sur les chiffres et toujours un mot de culture. Voilà sont les comportements qu'on valorise chez Alan, voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on tolérera pas, voilà ce qu'on n'a pas toléré, donc on s'est séparé de la personne. C'est ça qui fait que cette attention portée à la culture spécifiquement, je pense, fait qu'on a des Alaneurs qui s'attachent à la boîte, à la culture, et pour nous, c'est même une question de survie parce que au bout d'un an, c'est des gens qui eux-mêmes deviendront coachs, qui eux-mêmes vont recruter. Et donc, si ces gens-là dévient, dans 2 ans, la boîte n'est plus la même.
Alors, j'ai 3 milliards de questions. C'est extraordinaire. Il y a un développement là-dedans, bien sûr, de sentiment d'appartenance, du fait. Parce qu'en fait, si tu viens rappeler la culture comme ça régulièrement, tu te sens encore plus probablement... en collectif, engagé, et du coup, tu es plus performant. In fine, c'est une question un peu piège, mais c'est quoi la recherche au-delà de l'aspect collectif? Moi, je suis complètement en phase avec cette partie sentiment d'appartenance, mais c'est aussi de se dire, ils sont bien, donc ils bossent bien, quoi.
Je pense que le but n'est pas sur le sentiment d'appartenance, c'est certain. Le but, il est surtout de rappeler quel est ce dont on ne déviera pas. C'est le fil d'Ariane de la culture. Et donc, ensuite, si j'ai envie de le lâcher parce que ça ne me va pas, c'est OK de partir aussi.
Oui, oui. Tu vois
ce que je veux dire? C'est pas du brainwashing sur en revanche, c'est certain que pour moi, la priorité numéro 1, elle est sur la collaboration. Et sur voilà comment on prend une décision chez nous.
Ouais.
Je parlais tout à l'heure de ce que je trouve un des trucs les plus précieux, qui est cette confiance qu'on peut avoir entre nous de si je déraille ou si je rate un truc.
Ouais.
Et que quelqu'un le voit, on va me le dire. Je suis pas sûr que ça existe dans beaucoup de boîtes.
Non.
Ça, en tout cas, c'est très sécurisant. Et c'est ça qu'on cherche à nourrir.
Okay.
Parce que, je vais être très honnête aussi, on va, dans cette culture-là, à l'encontre même de principes éducatifs. Quoi. Moi, j'ai une mère qui m'a passé mon temps à me répéter qu'il fallait que je balaye devant ma porte avant de m'occuper des problèmes du voisin, que je regardais, je vais quand même mêler de mes affaires. Et changer cette mentalité-là...
Ouais.
C'est un muscle, c'est pas évident. Et donc, l'objectif de surtout communiquer là-dessus, elle est de rassurer les personnes qui viennent chez nous en leur disant, vous avez passé le process de recrutement, on va pas transiger là-dessus, mais on pense que vous pouvez le faire. Vous avez la voix si vraiment, en fait, vous sentez que vous êtes en difficulté, mais en revanche, c'est normal que ce soit dur et c'est normal que ce soit contre-intuitif parfois. Et on va vous aider à le naviguer, il n'y a pas de problème.
Alors, moi, j'apprécie le fait que même à 500, vous soyez en capacité de, d'itérer, je déteste ce mot valise, mais sur effectivement les différentes typologies de profils que tu as sur l'onboarding, et notamment le culture body qui est désormais éteint et le coach. Moi, j'ai une question sur le coach. Je pense que c'est indispensable d'être coaché à la fois de manière ponctuelle, potentiellement de manière permanente, en tout cas d'avoir un coach à être dispo potentiellement dans la boîte. J'avais fait un épisode il y a un an là-dessus. J'ai quand même une question sur le profil de ces gens. Est-ce que ce sont des coachs qui ont des formations certifiantes, etc. Ou est-ce qu'au début, je te dis une bêtise, mais tu vois, le côté un peu sparring partner dans le bon sens du terme, tu vois, moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu plu, tu vois, dans les boîtes, et de te dire, en fait, tu vas être là pour quelqu'un en soutien, mais qui ne va pas forcément être un sujet sur la productivité, la perf, le machin. Ça peut, hein, c'est pas un gros mot, mais le côté compagnon, tu vois. Et donc, c'est quoi les profils, en fait, ces gens-là?
C'est une super question, et ça me permet surtout de lever... Je me pose toujours la question, est-ce qu'il faut que je change le vocabulaire sur coach ou pas? Parce que je sais que ça attire pas mal de foudre de vrais RH certifiés coach.
Oui, bien sûr.
Ce sont pas des gens qui sont... C'est coach interne, c'est des coachs à l'âne. C'est entre l'entraîneur et le sparring partner. C'est okay. Pas complètement des gens qui... Okay. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
c'est
bah,
là, je pense que la meilleure définition est là. En revanche, ils sont, tout d'abord, certifiés à l'âne. Pour le coup, on a un parcours de développement et de formation et sur lequel on certifie les personnes. On a deux parcours certifiés en interne. C'est qui est à même de recruter chez nous et qui est à même de devenir coach.
Okay.
Et en termes de personnalité, ce sont souvent des gens qui ont au moins quand même un an chez Alan. Et qui, là, on va retrouver ce que je te disais au tout début, qui ont un vrai appétit d'investir davantage sur la croissance des équipiers.
Okay.
Sans non plus être manager et ne faire que ça et gérer.
Oui, c'est pas un full-time job, très clairement.
En revanche, c'est un truc qui est extrêmement enrichissant et gratifiant. Il vient bien vraiment compléter mon expertise technique par comment j'ai de l'impact sur les autres aussi, comment je les fais grandir, comment je les aide à dépasser des difficultés. C'est un job qui est franchement compliqué. Être coach,
ouais, qui vide un peu émotionnellement aussi.
Oui, qui demande beaucoup d'écoute, ce qu'on n'a pas tous, qu'on a même beaucoup. Enfin, moi le premier, que on n'a plus beaucoup aujourd'hui.
Ouais.
Donc ça demande beaucoup de temps. Et qui, moi, j'ai trouvé le plus intéressant dans le coaching, c'est se forcer pareil à aller contre ses habitudes et même ce qu'on peut nourrir chez Alan de c'est moi qui décide, donc j'avance et je suis une machine à avancer. Le bon coaching, c'est celui où je vais poser des bonnes questions, où je vais partager des exemples de situations, mais absolument pas où il y a une maïotique, il faut que ce soit la personne qui arrive à la solution. Et ça, c'est différent de ce qu'on fait au quotidien, je trouve ça complète bien.
C'est très séquencé, c'est-à-dire c'est très processé en termes de faut le voir une fois toutes les deux semaines, etc.
Oui.
Ou c'est vraiment au besoin?
Non, c'est frais, séquencé express et toutes les deux semaines. Et pour le coup, on n'est pas censé décaler. On essaie d'être ferme dessus.
Ouais, c'est des rendez-vous d'une heure. Et
c'est des rendez-vous de 45 minutes où dans l'idéal, on essaie d'aller marcher. On va dehors. On fait des tours du canal.
Moi, je trouve que c'est des bonnes précisions. Ça, ouais, je trouve que c'est hyper cool. Parce que oui, parce qu'on prend pas le temps de marcher, de se balader, etc. C'est pas du tout la même dynamique que de poser les fesses sur une chaise dans un bureau. Enfin,
exactement. Et tu sais, je vais faire le monde, mais c'est la base de ce qu'on appelle aujourd'hui les péripatéticiens. À la base, c'était ça. C'était une secte de philosophes qui allaient marcher ensemble, ils refaisaient le monde, etc. Et on est vraiment en train de faire ça.
Chouette anecdote. Je pense à mon titre pour le post LinkedIn de l'épisode. Chez Alan, il y a plein de péripatéticiennes.
Exactement.
Et moi, je reviens sur un exemple que t'évoquais. C'est pas pour te brosser dans le sens du poil, mais en fait, parce que j'ai une anecdote qui me vient en tête où tu disais, moi, en fait, j'essaie d'attraper au contact. Moi, j'aime bien ce mot, au contact. Et en fait, si tous les 15 jours, tu fais les onboardings et tout, avec pourtant le poste que tu as chez Alan, c'est possible parce que tu as besoin de voir, tu as besoin de t'immerger, tu as besoin aussi peut-être de te rappeler de tout ce qui se passe. Et je me suis retrouvé, moi, avec un client que j'accompagne, qui est une boîte, je pense, à peu près de la taille d'Alan, grosso merdo, quoi. Et je disais au DG, tu vois, je lui ai dit, ouais, ce qui serait pas mal, tu vois, on lui faisait tout un plan, je dirais, de levier à activer sur les 18 prochains mois. Tu vois, c'est un truc assez précis, tous les mois, ce qu'il doit faire, etc. En tant que collectif et individu, donc une fois c'est l'RH, une fois c'est la com, une fois c'est le DG, une fois c'est machin. Bref, il y a ce côté responsabilisation. On lui dit, putain, ce serait pas mal que tu bouffes avec les nouveaux arrivants, tu vois, mais bon, une fois par mois, tu vois. Je sais qu'une fois tous les 15 jours, j'en sais un peu haute saucisse, tu vois. Et le mec me dit, c'est no go, quoi. Il me dit, c'est no go. Et je dis, mais pourquoi? Tu vois, et en fait, et j'ai apprécié l'honnêteté, tu vois. Il m'a dit, c'est pas trop, tu vois, le fait de rencontrer, d'aller bouffer avec 10 personnes d'un coup. Je sais pas ce que je vais raconter, tu vois. Il y avait un côté un peu, il se sentait pas légitime, tu vois ce que je veux dire, de dire, en fait, tu vois, je vais leur parler de la boîte. Ils vont trouver ça relou. Et puis, je vais pas leur parler de mon week-end, tu vois, parce qu'en fait, ils vont se dire, putain, le mec, il est parti à droite, à gauche, tu vois. Il y avait un mélange de ça va me prendre du temps, mais c'était pas trop ça. Et c'était comment je structure un peu le truc. Je dis, bah, si c'est ça le problème, ça, c'est pas grave, tu vois, parce que justement, faut être un peu, faut poser les valises, tu t'en fous, quoi.
Oui, oui. Et puis, pour le coup, je pense que mon hypothèse de base, c'est que là, pour le coup, il y a une erreur d'analyse sur le... les gens adorent qu'on leur parle de la boîte, ils rejoignent un collectif, d'où on vient, dans quoi on s'inscrit, c'est quoi l'histoire. Alors, je vais être pareil, très honnête sur le pourquoi. Moi, c'est un moment que j'adore, qui est hyper précieux.
Ouais.
Égoïstement, je vais commencer par la mauvaise raison. Pour aussi prendre la température. C'est aussi un moyen. Je me dis, OK, est-ce qu'on est en train de... Juste au feeling. Est-ce que la qualité du recrutement baisse? Est-ce que les gens sont percutants? Est-ce qu'ils ont envie de... Est-ce qu'ils...
Ouais, mais ça, c'est bonne raison. Hein.
Et est-ce qu'ils viennent pour les bonnes raisons?
Ouais. Aussi.
Mmh. Et surtout, à l'inverse, pour deux choses, recréer, incarner. Il y avait un besoin d'incarnation à un moment, en fait, de ces histoires-là. Parce qu'à l'oral, je vais partager beaucoup d'anecdotes, parfois marrantes, sur d'où on vient. Et pour créer le canal. Vraiment, il y a aussi un besoin... Ils se sont rendu compte à mesure qu'on grossissait que notamment toutes ces fonctions support que je peux incarner, on est de plus en plus vu, ça va être la RH, point barre. Mais ça n'existe pas, la RH. Ouais, de même que Alan a décidé, Alan n'existe pas. Alan, c'est toi, moi et tout le monde. Enfin, et donc, comment j'incarne ça pour que les gens aient le canal, s'il y a la moindre question, montrer qu'on est accessible. Et en fait, il n'y a qu'en descendant dans l'arène. J'ai déjeuné avec un DRH il y a moins de deux mois, beaucoup plus à moi, qui est un ancien DRH du CAC 40. Et une de ses principales conseils, tu m'en parlais des erreurs que les gens font, c'est de me dire, oubliez que ce job est un job dynamique. C'est le DRH qui se plante, c'est le DRH qui croit que c'est un job statique, en fait. Et il y a besoin d'être au contact.
Bien sûr.
Donc ça, pour ma priorité, et après pour revenir à l'exemple de ton CEO, pour l'instant, notre CEO tient la barre sur la rencontre avec chacun. Et c'est... C'est un moment important pour eux, c'est un moment fort du recrutement.
Ah ouais.
Il y a une chose
d'ailleurs. Hein,
complètement, mais... complètement. Il y a, enfin, du recrutement, de l'onboarding par contre. Il y a une chose sur laquelle moi j'essaie de creuser davantage et on n'a pas résolu le problème. C'est à l'inverse, avoir un CEO ou des C-level qui sont très présents là-dedans, ça peut créer une espèce de besoin de reconnaissance de la vraie reconnaissance ne parle que par eux. Ils incarnent tellement la boîte, se dire que les seules félicitations qui comptent, c'est, ou le seul avis qui va compter, c'est l'avis de cette personne.
Ouais.
Et là, comment tu débranches en disant non? Vous êtes responsable, on se fait confiance.
Ouais.
Et c'est pas parce que le CEO a félicité un tel que tout le monde doit être jaloux. Parce que là, pour le coup, on a tout raté.
Ouais, ça, c'est vrai que c'est hyper important. Et je salue effectivement le DG qui arrive encore à le faire. Je trouve que c'est effectivement ça. Voilà, est-ce que c'est une fois de plus, la question est la même. C'est-à-dire, est-ce que c'est scalable quand vous serez 3000, tu vois
On le fera peut-être une fois par mois, dans un format un peu différent. Mais ça, je veux pas le négliger. C'est trop important.
Moi, je reviens juste sur un point. C'est pas un point de détail. Avant de repasser sur un autre sujet, je vois que l'heure avance, mais c'est à un moment donné pour cette notion de responsabilisation des équipes et de culture de l'écrit. J'ai parlé de Notion tout à l'heure, etc. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y avait une anecdote qui tournait, en tout cas sur.
J'attends de me préparer au pire.
Pas du tout. C'est une anecdote plutôt de geek d'ailleurs. C'était de se dire, en fait, il y avait pas vraiment d'outils SaaS pour tout ce qui était sujet non résolu ou sujet abordé ou questionnement, etc. Et vous aviez utilisé GitHub, je crois.
Oui, exact.
Qui est quand même pas du tout fait pour ça, hein, qui est un outil de dev tech un peu vénère, tu vois, voilà, hein, concrètement. Et du coup, vous vous êtes dit... Alors moi, j'aime bien le côté un peu... bon, en fait, il n'y a pas d'outil. Tu peux le créer, mais ça prend du temps, il faut du dev, etc. Et il y a quelqu'un qui a levé la main au moment qui a dit ah, attends, GitHub, on s'en fout, on va le tordre et puis ça va marcher, etc. Comment ça s'est fait
Plusieurs choses.
L'histoire drôle, en fait.
L'histoire est très drôle pour plusieurs raisons. Alors, déjà, comme d'habitude, vraiment à César tout ce qui est à César, je crois que si je ne dis pas de bêtises, l'idée est venue de chez Sunrise, qui est une boîte, je sais pas si tu l'as connue ou pas. Mais donc là, on parle de la préhistoire de la tech.
Bien sûr.
Donc, et eux faisaient ça, à ma connaissance. Ou en tout cas, peut-être sur des formats un tout petit peu différents, mais je crois qu'ils passaient un peu par GitHub. Pour l'anecdote que j'adore pour le coup, je pense pas que ce ne soit que Alan, mais ça a été pris par d'autres boîtes, si bien qu'aujourd'hui, GitHub a des discussions officiellement. Donc eux-mêmes ont changé depuis deux ans avec ça et pour pouvoir utiliser comme tel. Donc ils se sont adaptés aussi à d'autres boîtes qui le font comme tel. L'outil importe peu. Le jeu pour nous, c'était toujours la même chose. C'était quel outil simple on peut avoir, centralisé, dans lequel on pouvait avoir ce partage collectif. Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé pour l'instant jusqu'ici, que normalement on utilise tout le temps, dans mon moindre interview chez Alan, donc je suis content que ça n'arrive qu'au bout d'une heure, parce qu'on s'est focalisé sur l'écrit, mais c'est la transparence. Et la culture de l'écrit incarne ça. Mais cette transparence, ça se la doit aussi à l'oral, dans la manière dont on fait le feedback, dont on se fait confiance, dont on traite nos membres et dont on construit notre produit. Tout est lié, mais l'utilisation de GitHub, elle vient de là. Ça vient matérialiser la transparence parce que j'ai accès à cette information-là.
Merci pour cette réponse-là. Justement, pour rebondir sur la transparence, tu sais que c'est un sujet que je crois qu'on avait déjà évoqué d'ailleurs quand on s'est vu, mais très rapidement. Et mon modèle là-dessus, c'est Jonathan Salmonok, un de mes potes hein, d'ailleurs, mais qui lui effectivement est vraiment en transparence radicale. Alors, et c'est un peu différent parce que lui, c'est une ESN, il place des consultants, etc. tech. Mais vous, vous avez effectivement pris le parti depuis probablement la genèse du projet,
depuis tout début,
d'avoir une transparence sur les salaires. Alors, là, on est sur de l'industriel, du coup, maintenant, parce que vous êtes quand même vachement nombreux. Donc, on ne va pas expliquer, je dirais, le tableau ABCD, etc. Moi, je voudrais juste revenir sur pourquoi vous l'avez fait et pourquoi vous continuez à le faire et est-ce que ça a comme impact, très concrètement.
Et si tu m'autorises, à la fin, on ira au-delà des salaires. Parce que la vérité, c'est qu'on se focalise sur les salaires. Mais les vrais sujets difficiles de la transparence, ils sont plutôt sur les conversations difficiles.
Le décisionnel, les points de friction. Quoi.
Exactement. Mais on a vraiment, c'est culturellement, on a très peur de la transparence sur les salaires parce que c'est tabou et qu'en fait, chez nous, c'est un non-sujet. En revanche, il y a beaucoup de choses qui ont évolué avec le temps. Au début, on y a été par pur esprit de se dire tout est transparent parce qu'on veut que les gens aient le même levier. Et donc, pour le coup, si on commence à rajouter, là, on va être dans le côté radical que tu évoquais tout à l'heure. On a une phrase que je répète beaucoup et qu'on répète tous beaucoup qui est le pire comportement qu'on tolère, c'est notre culture de fait. Et donc, si je commence à autoriser pour des bonnes raisons qu'on le fasse plus, parce que c'est vraiment sensible, parce que c'est compliqué, parce que ça peut faire peur. Non, j'explique, mais on y va quand même. Okay. Voilà exactement pourquoi on s'impose ça. En revanche, au tout début, très pratique, parce que commencer un processus de recrutement en disant voilà, c'est comme ça, et puis pas autrement, et on veut pas négocier. Ça file certains candidats, ça a enlevé toutes les discussions de comptoir, ça a eu beaucoup d'effets vertueux, y compris notre première dev femme qu'on a recrutée, elle a pris 30%. Donc on a, mais je dirais on l'a même pas mis en place pour ça à la base. En revanche, hyper vertueux. Par contre, à mesure qu'on a grandi, on s'est rendu compte que ça nous avait forcé à faire au moins deux choses. Un, formaliser bien davantage, et le gros travail il est là, le où est-ce que chacun se situe et pourquoi. Donc, à tel niveau, voilà ce qui est attendu. Et c'est un énorme travail qui a été fait sur les grilles et qu'on réajuste régulièrement parce que sinon, les gens ne sont pas capables de se placer. Et deuxièmement, avoir un processus d'évaluation qui lui-même doit être transparent mais repose sur le collectif. En gros, il n'y a aucune transparence des salaires qui marche quand, je crois que je le dis souvent pareil, que quand les décisions, in fine, sont le fait du prince. Et donc, il y a besoin de se reposer sur le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui partagent le feedback, qu'on ait un comité qui décide à la fin avec trois personnes. Et là, on va être dans une salle. C'est une des rares moments où on est dans une salle à plus de trois. Et où toutes les discussions sur les cas individuels sont expliquées à l'écrit. Donc, je sors de ce process-là en disant, je passe au niveau du dessus ou pas. Quelle est la voie exacte qu'on m'a redonnée? Et je peux savoir ce qui a été dit sur les voisins aussi. Et ça,
il y a ce côté un peu conseil de classe, quoi, finalement.
Oui, alors, mais avec aucune volonté de, ni de ranking des personnes. Okay. En revanche, je pense qu'on est dans la même personne à craquer ça, et c'est normal. Le même degré de frustration dans les autres boîtes de « j'aurais dû être augmenté, je ne l'ai pas été ».
Oui, ouais, c'est sûr.
Mais ce que je n'ai pas attrapé chez Alan, c'est des gens qui me disent « un tel est augmenté et pas moi ». Et ce n'est pas juste. Et en fait, ça, c'est déjà, je pense qu'on a fait la moitié
du problème. Oui, parce que le décisionnel est aligné, en fait.
Il est aligné, il est lisible, et on sait à quelle sauce on va être mangé. Après, il y a de l'interprétation dans les « est-ce que tu as atteint tes objets ou pas ?»« Est-ce que tu t'es comporté quand il fallait ?» Oui, il y a du subjectif. Ouais. On essaie de même dans le recrutement, c'est pareil, de contrer le subjectif. On ne peut pas le contrer complètement, mais on essaie de le réduire par la moyenne, donc par l'effet de groupe, et par l'éducation aux propres biais qu'on peut avoir.
Mais du coup, ce que tu disais tout à l'heure, moi, je trouve que c'était diablement intéressant, c'est qu'en fait, le feedback dans la logique de transparence dans laquelle vous évoluez, il est assez fondamental, puisqu'en fait, le feedback, il y a cette culture de l'écrit derrière. Moi, je suis toujours très prudent avec le feedback, parce qu'en fait, la culture du feedback, si elle est faite à l'oral, elle peut être faite sur le vif, et donc elle peut être blessante, elle peut être néfaste, elle peut être toxique, elle peut être bien évidemment positive dans plein de cas, etc. Mais du coup, le fait que elle soit par écrit, ça veut dire que vous arrivez à c'est plutôt un accélérateur qu'un frein ou qu'un vecteur de friction.
Alors, je suis pas sûr qu'on ait résolu le problème non plus. Je vais être très décevant. Donc,
j'attendais une autre réponse.
Je vais essayer d'être le plus transparent possible. On pousse beaucoup. On a un outil qu'on appelle Continuous Feedback. En continu, j'ai travaillé avec quelqu'un. Je partage quelques lignes en disant voilà, ça c'était super, ça c'était moins bien, etc. Et de façon, la priorité pour moi, c'est de faire en sorte qu'il sorte et qu'on n'en fasse pas un drame. En plus, comme on vient. Donc, plus les gens recevront de feedback, moins ça va être un événement exceptionnel où le contenu va crisper. ça, une des choses que je rêve de pouvoir faire, et on travaille dessus, c'est comment je limite le coût d'entrée pour l'écrire correctement. En fait, l'une des choses les plus dures sur le feedback, c'est que les gens ne savent pas, ont envie de le partager, mais ne savent pas soit le formuler. Alors, si vous ne savez pas faire ça, allez sur ChatGPT ou autre. Pour le coup, c'est un outil d'aide énorme. On l'utilise beaucoup pour préparer des textes, mais savoir formuler des choses et me donner des idées qui me correspondent sur comment formuler quelque chose, hyper, hyper puissant.
Ouais.
Et comment je... Pareil, j'évite le côté évaluation de fin d'année où je dois écrire 15 pages, en fait. Le jour où ça deviendra quelque chose de vraiment continu, simple et même frictionless pour pouvoir l'écrire, là, on aura vraiment gagné. Mais on n'y est pas encore. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire il faut que j'y passe une heure, donc je le fais pas, je le ferai la semaine prochaine, et finalement, et moi le premier, et donc je le fais pas et ça se perd, et c'est là où on aura des opportunités. En revanche, tout ce que tu disais au tout début en disant je me méfie de la culture du feedback, là-dessus je serais radical. Oui, on ne sera jamais parfait, mais je préfère un feedback mal partagé dont on peut discuter qu'un feedback pas partagé.
Ouais, là, je suis assez en phase, effectivement. Ça sera beaucoup plus ça sera beaucoup plus néfaste. Ouais, tout à fait. Je reviens sur un point, l'entretien touche à sa fin, et je sais qu'on est timé, t'inquiète, je t'avais dit, je suis un bon maître du temps. Non, mais pas du tout, t'inquiète. Dans le cadre, effectivement, de cette notion de transparence radicale, on a beaucoup de sujets DEI, donc diversité, équité,
inclusion.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de prendre le problème de front? Ou c'est un point d'attention particulier, c'est ça que je veux dire, ou alors c'est quelque chose qui est finalement assez natif dans la culture de la boîte. Comment c'est appréhendé en termes de sujet?
Il est attrapé beaucoup, exactement pour la même... J'ai presque envie de te faire la même réponse que ce que je t'ai dit à l'instant sur le fait du prince sur les revues. C'est qu'on l'attrape, je pense, grâce à la transparence, on l'attrape grâce au nombre, au fait qu'on dépende plus d'une personne, et après, beaucoup, on essaye de s'éduquer nous-mêmes sur nos propres biais.
Okay.
Ça, c'est un vrai sujet et on n'y est pas encore complètement. Après, dans le monitoring au quotidien, mon point d'attention principal, moi, il y a un choix, un vrai parti pris de se focaliser très fortement sur l'égalité femmes-hommes et la parité, et que ce soit vraiment nous, notre booster. On n'a pas une vision anglo-saxonne du D&I. En revanche, ça, j'essaie d'être radical pareil dessus.
Ouais, c'est, alors moi, je trouve que perso, c'est un sujet casse-gueule.
Ouais, complètement.
Bon, ça l'a toujours été. Et finalement, moi, j'ai reçu une invitée qui était Pamela, qui était un chouette épisode. Mais c'est vrai que, à niveau quasi égal, est-ce que tu prends un homme ou une femme, etc. Parce qu'en fait, il y a cette notion de rémunération aussi derrière, qui est terrible à dire. Hein, mais tu vois, et donc, tout cela rentre en ligne de compte. Donc, c'est vrai que je sais pas si la bonne réponse, c'est de dire, en fait, il faut être fidèle à la culture que tu crées, toi, dans ta boîte et qui se rattache aux valeurs que tu as, etc. Après, j'ai pas la sensation qu'il y ait une vraie bonne réponse sur le sujet, en fait.
Je veux croire, c'est peut-être naïf, mais que la combinaison de la transparence radicale, et donc le fait qu'on ait aussi un garde-fou collectif. Les gens disent attention à telle manière de formuler, va pas, et les mains se lèvent, en fait. Et ça, ça nous aide énormément, et le pouvoir par la décision du groupe. On recrute personne parce qu'une personne décide de recruter. On embauche personne parce que personne, et ça, mine de rien, ça est très fort, sachant en plus, c'est ça que j'aurais dû préciser, que le fait de devoir documenter aussi responsabilise beaucoup. C'est-à-dire que je dois être aussi capable d'expliquer ma décision, ou la manière dont je l'écris, devant d'autres personnes. Et ça me prend force à prendre beaucoup de recul. La contrepartie de ça, tu l'évoquais tout à l'heure sur le feedback, c'est d'avoir un risque, d'avoir un feedback tiède.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est à nous d'éduquer et de challenger.
Juste une question vraiment subsidiaire, mais pendant le Covid, cette culture justement que vous aviez de l'écrit, est-ce qu'elle s'en est retrouvée renforcée et donc plus légitime? Est-ce qu'en fait, c'était une continuité, donc pas de stress, ou est-ce qu'en fait vous vous êtes dit par ailleurs ça vous a aidé à être plus véloce dans le maintien du business?
Continuité totale pour le coup, c'est une culture qui était pensée où tu peux avoir autant d'impact en étant à Limoges qu'à Paris, aux États-Unis qu'en France, donc ça a marché hyper bien. La boîte a pas du tout été déstabilisée, les informations descendaient, remontaient toujours de la même façon. Non, moi, le point d'attention principal, il a été notamment les gens qu'on a onboardés pendant cette période. Comment je déclenche un vrai affectio societatis, comment je fais qu'ils se sentent partie du groupe, avec des gens qui étaient en plus de ça, des développeurs qui étaient dans 18 mètres carrés dans une chambre de bonne et passaient leur journée sur leur lit. Il était là, le sujet. Donc là, il s'est même agi de déclencher davantage d'interactions humaines, de cafés à distance, d'événements, pour les attraper, mais parce que ça allait mal dans le perso.
Bien sûr.
Mais d'un point de vue mode de fonctionnement, au contraire, ça c'est extrêmement robuste dans ce genre de... Ça a été un très bon stress test, ça.
Et si on prend le concept de transparence radicale, c'est quoi, Alan, dans 6 mois, dans 3 ans, dans 5 ans, quel va être le virage le plus fondateur?
Alors, je pense que un des virages vraiment le plus fondateur qu'on a pris, c'est celui qu'on a pris il y a un an.
Quels vont être les, tu vois, quel est l'avenir d'Alan?
Allez, encore plus de pays ouverts. Je pense que le modèle, maintenant, il est prêt à scaler davantage plus fortement sur l'international. Okay. Et moi, j'ai un objectif, mais ça, c'est parce que je suis aussi ma casquette de DRH et donc j'ai cette chance de bosser sur une boîte où le produit est pour les RH.
Ouais.
Et donc, on boucle. C'est qu'on a encore quelques endroits sur lesquels on peut être encore plus utile au quotidien à tous les RH pour que la santé soit un vrai sujet dans le monde du travail. Santé mentale, on a, je pense, vraiment été au bout du sujet. Et pour le coup, on le fait bien aujourd'hui. La santé du quotidien, mais sur la partie prévention, on voit, sur la partie absentisme, on peut attraper les gens en tant qu'RH, on peut l'attraper via Alan, et on est en train de boucler comment vraiment y aller.
Et Paul Sauveplan, dans 5 ans, c'est qui?
Oh, bon, on verra. J'ai changé tous les 2 ans, 2 ans et demi de rôle chez Alan.
Ouais.
J'ai commencé par la finance, le risque, le légal, les RH. Pour le coup, j'ai un rôle qui me plaît beaucoup. Donc, j'espère avoir scalé les gens avec moi. Il y a de quoi faire. Oui, après, dans 5 ans, j'espère aussi avoir construit une équipe qui prenne le relais et puisse me permettre de faire autre chose dans cette boîte qu'on construit ensemble.
Je prends souvent l'exemple de, enfin, pas trop dans le podcast, mais j'ai croisé Ludovic de Grosmart il y a pas très très longtemps, qui a une boîte qui s'appelle Chance, et donc je tombe sur lui, je sais plus, de manière totalement inopinée, lundi à un apéro, et il racontait l'histoire de son associé qui était donc CFO, je crois, donc elle était Chief Finance Officer, et qui est devenue Product Owner dans la boîte. Elle a fait le parcours, elle est devenue Product Owner. Et je trouve que c'est quand même assez drôle d'avoir quelqu'un qui est au board et puis qui est finalement product owner. Et grosso modo, son boss aujourd'hui, elle était son boss juste avant, je crois. Donc.
Mais ça, on le fait nous aussi. Et je trouve qu'en fait, c'est génial quand on parlait de notre data lead est redevenu data scientist.
Ouais.
On a plusieurs comme ça d'exemples où les gens... Parce que ce job, pour le coup, de manager d'équipe, c'est aussi un job à temps plein sur lequel on peut s'épanouir. Mmh. Une fois qu'on a appris, les gens ont envie de revenir. Et ça, c'est, je trouve, un des meilleurs exemples de culture de responsabilité distribuée qu'on a chez Alan et de notre capacité à offrir des parcours, entre guillemets, verticaux, mais aussi horizontaux.
Je pense que c'est hyper important et c'est quelque chose sur lequel bien communiquer quand ta boîte commence à prendre de l'ampleur, très important. Je te propose qu'on passe aux questions de fin.
Ouais.
Est-ce que, même si tu l'as déjà fait, est-ce que tu as une anecdote, une bonne ou mauvaise expérience à nous partager en complémentaire de celle que tu nous as déjà racontée?
Tu veux que je raconte celle du podcast où ça fait un quart d'heure que je perds ma lentille et que j'arrive plus à te voir? C'est en train de se passer. Non, qu'est-ce que te dire? Si, la petite anecdote marrante pour le coup, on est dans des locaux magnifiques, alors les gens ne nous voient pas malheureusement, mais qui ont failli être les locaux d'Alan et finalement Morning nous a attrapé, on est à la barbe, mais j'ai identifié très bien ici.
Fit, c'était ici.
C'était exactement. C'était les anciens locaux d'Areva, donc pendant mes visites, les gens me disaient, regardez, ça c'était le bureau d'Anne Lauvergeon, vous voyez pas bien ici.
Moi, je sais pas si c'est une bonne réponse.
Non, absolument pas. En revanche, j'aurais adoré parce que les voisins d'en face sont le plus gros groupe de mutuelles de France.
Ouais,
donc,
ils sont en train de faire des gros travaux.
On aurait bien aimé les avoir comme voisins d'en face.
Bah écoute, tu peux aller taquiner Clément Alterescu, je te disais avant de commencer, il est en bas, il prend un café, donc ça le fera bien rire, je pense. Est-ce que tu as une recommandation de film, de livre ou de podcast ou autre, de choses qui viennent t'inspirer? Tu le disais au début, c'est pas évident de choisir. Toi, c'est plutôt les personnes qui viennent t'inspirer.
Mais je te ferai pas un bouquin, là, pour le coup, que j'ai offert plusieurs fois dans l'équipe et qui est un bouquin que je pense beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Le cas de Wistreham de Florence Obna, et qui, je pense, est une très bonne chose quand on est RH dans la tech, de se rappeler ce qu'est la réalité du monde du travail. Pour moi, ça a été une bonne piqûre de rappel.
Ouais, c'est un bon, ça a été bien révélateur. Top. Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas pour vraiment tout cet échange. Paul, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que je t'avais dit que je te rattraperais. J'en avais été plus poli que ça, je crois, à l'époque. Mais c'est un quart d'heure, je le dis franchement, un quart d'heure, c'était trop court. C'était un peu lisse. Enfin, c'était pas que c'était lisse, mais on avait touché
pas
du doigt les concepts.
Profondeur, exactement.
Et voilà, l'idée, c'était de rentrer en profondeur. Je sais qu'il y a encore 40 autres sujets qu'on aurait pu évoquer. On se fera un catch-up.
On fera 4 heures la prochaine fois.
Voilà, en 2024. Je fais pas encore de podcast de 3-4 heures. Petite pensée pour Matt Stéphanie. Et en tout cas, c'était vraiment un bonheur d'échanger là-dessus. Je trouve qu'il y a des choses qui sont très... moi, j'aime bien l'inspirationnel. J'aime aussi les choses très opérationnelles. Et je pense que l'audience, quand ils écoutent effectivement ce que toi, tu vis au quotidien et ce que tu fais vivre au collectif, c'est important parce qu'il y a des choses qui sont finalement déployables assez rapidement. D'autres, effectivement, plus complexes. Mais en tout cas, il y a des choses très concrètes.
Oui, et puis vraiment, ce que je disais au tout début, c'est une culture qui nous correspond. Je suis même aussi avec beaucoup d'humilité là-dessus.
Ouais.
C'est-à-dire que, un, elle continue à... La culture ne bouge pas, mais les méthodes, les moyens qu'on utilise changent. Et puis, je suis convaincu que pour un groupe humain, que ce soit une équipe, que ce soit un département, que ce soit une boîte complète, il y a moyen justement de l'utiliser aussi comme, comme boîte à outils.
Merci en tout cas, je te dis, pour ces enseignements-là. C'est top, et notamment cette dernière remarque.
Super.
Je trouve ça cool. Félicitations aussi pour ce que vous êtes en train de faire. Moi, je vis le, en tant que client aussi, je t'ai dit, le Alan. Donc, je suis finalement assez content parce qu'en fait, il y a un bon suivi. Mais en tout cas, voilà. J'espère surtout que ça aura inspiré les auditrices et les auditeurs.
Également.
Et puis, on a hâte de voir la suite d'Alan en 2024.
Super, à lundi prochain.
Merci beaucoup. Bonne semaine.
Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine !